Bonsoir à toutes et à tous. Journée à haut risque aujourd'hui pour Emmanuel Macron avec une double manifestation dans la capitale, les Gilets jaunes et la marche pour le climat. Et un Paris cadenassé, 7500 policiers, des motos, des blindés qui n'ont pas pu empêcher toutefois des violences avec l'infiltration de Black Bloc dans les défilés, 152 interpellations. La préfecture de police dit avoir recensé 1000 manifestants radicaux. Alors peut-on parler de convergence aujourd'hui entre ces deux mouvements, la marche pour le climat et les gilets jaunes? Y a-t-il de part et d'autre la tentation du radicalisme avec des violences bien sûr, mais aussi de la désobéissance civile assumée? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Gilets jaunes, climat, des violences et une convergence ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste aux Échos. Citons votre dernier édito intitulé « Comment affronter un mouvement asocial ?» Nous accueillons Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. La dernière enquête Ipsos intitulée « Fracture française » montre que la protection de l'environnement est désormais la priorité des Français devant le système social ou le pouvoir d'achat. Nicolas Chapuis, journaliste, reporter au Monde, en charge de la rubrique Police-Justice. Je cite votre dernier article, « Gilets jaunes, marche pour le climat, journée du patrimoine, un samedi sous tension ». Et enfin, Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs. Vous revenez à l'instant des manifestations. Ben justement, commençons par vous, Emmanuel Anison. Qu'avez-vous vu aujourd'hui dans ces cortèges qui étaient alors un peu dispersés dans toute la capitale hein?
Oui, alors les cortèges étaient dispersés. L'objectif de base, c'était quand même les Champs-Élysées. Et il y avait vraiment pour les Gilets jaunes cette volonté aujourd'hui de marquer le fait qu'ils pouvaient reprendre les Champs-Élysées. Donc ce matin, dès 9h, à Saint-Lazare, à Saint-Augustin, Porte-Maillot, alors que toute la zone, évidemment, proche des Champs-Élysées était interdite, il y avait énormément de petits groupes, quand j'ai énormément, il y avait quelques centaines, en tout cas, de groupes qui cherchaient et qui espéraient aujourd'hui marquer, être visible et pouvoir dire « ça y est, les jaunes sont de retour ». De fait, ils ont passé la matinée à essayer d'investir ces champs et ils ont échoué à les investir. Et finalement, donc, beaucoup ne savaient pas où aller. Dans les rues, il y avait beaucoup d'indécisions. Une partie a décidé de rester dans les alentours, en attendant éventuellement samedi soir, cette nuit, voilà. Et une autre partie a décidé de rejoindre la marche pour le climat, qui était donc à Saint-Michel. Et l'idée était à ce moment-là d'infiltrer le climat, comme ils disent, et de pouvoir, pour les éléments violents, exprimer la violence là-bas, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire sur les Champs-Élysées. Mais globalement, c'est vrai que par rapport à leurs attentes, on peut estimer qu'aujourd'hui, c'était plutôt un échec.
Et c'était les mêmes que l'an dernier, c'était les mêmes profils de Gilets jaunes, c'est ceux qui ont essayé de rallier les Champs-Élysées?
Alors, ils étaient beaucoup moins nombreux. L'année dernière, en fait, on compare avec le 16 mars. Hein, le grand fantasme aujourd'hui, pour eux, c'était de refaire le 16 mars, où il y avait à la fois cette marche pour le climat l'après-midi et puis ces Champs-Élysées qui ont été dévastées, pris d'assaut. Mais ils remplissaient les Champs-Élysées le 16 mars. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils étaient, quelques centaines, mais ils ne faisaient pas le poids, ils ne faisaient pas le nombre. Et je pense que beaucoup de gilets jaunes, d'ex-gilets jaunes, beaucoup le sont encore, en fait, dans l'esprit, dans le cœur et le disent, mais aujourd'hui n'ont plus envie de risquer 135 euros d'amende.
Pourquoi 135 euros d'amende? Ça veut dire quoi? Alors, dans quel cas vous inflige-t-on 135 euros d'amende?
En fait, quand vous êtes pris en train de manifester dans un endroit où vous n'avez pas le droit de manifester.
Donc le fait d'avoir un gilet jaune, par exemple, c'est considéré comme une preuve de manifestation dès lors qu'on est sur les Champs-Élysées.
Voilà, donc ils ne portaient pas de gilet jaune aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est qu'aucun ne portait de gilet jaune. De plus en plus, d'ailleurs, ils se font appeler citoyens en colère, et de moins en moins gilet jaune. Le signe distinctif du gilet jaune est devenu beaucoup trop dangereux aujourd'hui pour être porté. Mais au-delà de ça...
Parce que chacun est fouillé dans son sac, on regarde
voilà,
si un gilet
exactement.
Jaune...
Mais même sans gilet jaune, aujourd'hui, Éric Drouet, Maxime Nicole ou tous ceux qui sont identifiés gilets jaunes, à partir du moment où ils s'approchent de la zone, sont systématiquement arrêtés, bien sûr.
Nicolas Chapuis, ça veut dire que la police, bah ça y est, maintenant elle a l'expertise de ces samedis de gilets jaunes, on en est à l'acte 45, et donc elle arrive à déjouer leur plan. Aujourd'hui, les gilets jaunes n'ont pas réussi à faire un cortège.
Oui, très clairement, après 45 manifestations, donc ça fait maintenant 9 mois, que même plus, 10 mois, 11 mois que ça dure, les forces de l'ordre commencent à connaître la façon de procéder des Gilets jaunes. Emmanuel a rappelé le fait qu'ils visent les Champs-Élysées, c'est depuis le début leur objectif, et un certain nombre d'entre eux veulent aller dans le palais de l'Élysée. C'est vraiment Emmanuel Macron qui est souvent la cible des Gilets jaunes. Donc ça, c'est très clairement identifié du point de vue des forces de l'ordre, et ils savent à peu près comment gérer cette situation-là. Et là, la difficulté, c'est qu'il y avait plusieurs cortèges, puisqu'on a parlé des deux cortèges, mais il y avait aussi le cortège de Force ouvrière qui défilait contre les retraites à gérer dans le même temps. Il y avait la journée du patrimoine avec un certain nombre de bâtiments ouverts. Donc là, la difficulté de la journée, c'était plus la multiplicité des cibles potentielles, le fait que protéger tous ces sites, c'est très consommateur en unité. Donc c'était plutôt ça la difficulté à gérer. Ensuite, le bilan pour les forces de l'ordre, pour l'instant, il n'est pas définitif. On l'a dit, il y a aujourd'hui à peu près 150 arrestations maintenant. Il y avait, je crois, 120 verbalisations sur les zones interdites par arrêtés préfectoraux tout à l'heure. Mais le bilan, on le verra à la fin de la journée, parce que le bilan pour le gouvernement, c'est à la fois de ne pas se laisser former, de pas laisser les Black Blocs se former et casser des vitrines, du matériel. Et en même temps, comme le disait le ministère de l'Intérieur il y a encore 2 jours, la première mission du gouvernement, elle est quand même de permettre aux manifestants qui veulent le faire calmement de pouvoir manifester. Et ça, de ce point de vue-là, on verra à la fin de la journée, mais pour l'instant, c'est plutôt un échec, puisque les manifestants qui voulaient marcher pour le climat ne peuvent manifestement pas le faire. Il y a eu des mouvements de reflux parce qu'il y a eu des gaz lacrymogènes.
Il y a eu Greenpeace a appelé à quitter les cortèges.
Greenpeace
face
a appelé à quitter le cortège. Une autre des associations a appelé d'abord à quitter le cortège, puis a renoncé après, a dit non, restez. Donc il y a une grande confusion. Et c'est vrai que pour les manifestants qui étaient présents et qui voulaient marcher contre le climat, ils ne peuvent pas le faire. On avait déjà vu ça le 1er mai 2019. Le fait que les forces de l'ordre interviennent très fortement pour disperser les Black Blocs qui sont dans le cortège de tête. Mmh. Manifestement, cette stratégie à la fois est efficace pour disperser une manifestation qui est interdite, mais en même temps gêne les manifestants qui voudraient pouvoir le faire librement. C'est à la fois la responsabilité évidemment des gens qui cassent des vitrines, mais les forces de l'ordre sont là pour permettre aux gens d'exprimer leurs opinions. Et manifestement, ceux qui voulaient défiler aujourd'hui pour la planète n'ont pas pu le faire dans le calme. Et ça, de ce point de vue-là, c'est un échec pour tout le monde.
Parce que dans ces défilés pour le climat, il y avait évidemment des gaz lacrymogènes face au Black Bloc qui avait infiltré les cortèges.
Voilà, la préfecture envoie des messages pour dire aux manifestants « désolidarisez-vous du cortège de tête ». Alors c'est très théorique, désolidarisez-vous, puisque quand on est sur une avenue qui sont devant, moi pour y avoir été notamment le 1er mai où c'était très compliqué, quand les gens refluent, il n'y a plus de cortège de tête de manifestants derrière, c'est très confus, c'est très compliqué. Donc dire si vous êtes présent et que vous restez, vous cautionnez le Black Bloc, c'est un peu facile. Donc c'est très compliqué à gérer pour les forces de l'ordre, ça c'est certain. Mais le fait qu'aujourd'hui une manifestation pour le climat, qui est un thème qui fait consensus manifestement dans la société, ne puisse pas se dérouler normalement, c'est un succès pour personne.
Cécile Cornudet, 7500 policiers, on avait visiblement un Emmanuel Macron qui avait peur quand même qui a peut-être d'ailleurs toujours peur de cette journée. Il y a deux phrases qui le laissent à penser. D'abord, il a dit hier, c'est bien que les gens puissent s'exprimer, mais il faut que cela puisse se faire dans le calme. Et dans une interview au magazine américain Time, il dit, dans notre pays, nous aimons être dirigés et nous voulons tuer les dirigeants. Donc il a peut-être peur pour sa propre personne.
Il a changé de ton vis-à-vis des Gilets jaunes, parce que dans le même magazine Time, il dit, finalement, c'était bien qu'il y ait eu les Gilets jaunes, parce que ça m'a rappelé ce que je devais être, c'est-à-dire quelqu'un à l'écoute. On est quand même très loin de ses vœux au 31 décembre, où il disait, les Gilets jaunes, c'est une foule haineuse. Il a complètement changé de ton, parce qu'il s'est rendu compte, finalement, que cette coupure peuple-élite que pouvait incarner ce mouvement face à lui, eh ben, ça allait être difficile pour lui à gérer. Mais cela dit, je suis d'accord avec mes camarades, la journée est plutôt pas si mauvaise que ça pour lui, parce que les Gilets jaunes ont un peu raté leur retour, parce que la marche pour le climat, elle était importante, mais elle n'était pas monumentale.
15 200 personnes, selon le cabinet Occur, qui a donc établi ce compte.
Et hier, c'était pour les jeunes, c'était 10 000 personnes. Surtout, on voit bien, il reste 1000 personnes, les Black Blocs, qui ont envie, dans des coudes, de faire le chaos, etc., qui, comme ils ne peuvent plus s'infiltrer dans les manifs de Gilets jaunes, parce qu'il n'y en a plus, ils ont été dans celles pour le climat, pour faire du chaos, mais peut-être aussi avec l'intention de provoquer la police et de changer un peu, de faire comme ils avaient réussi à faire avec les Gilets jaunes, de provoquer un ressentiment contre la police de la part des manifestants qui les radicalisent eux-mêmes. Et ça, on voit que ça a été raté. Comme vous disiez, Greenpeace a demandé a tout de suite fait la différence entre la marche pour le climat et les Black Blocs. Ils ne veulent pas du tout être assimilés à cette violence-là. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, il y avait effectivement le mouvement de FO des retraites. Là, en revanche, c'était pas si faible que manifestement les organisateurs eux-mêmes étaient surpris du nombre qu'ils ont eu. Ils disent 15 000 personnes, je ne sais pas exactement combien. Mais en tout cas, sur la retraite, et le point commun aussi à tous ces endroits, les Champs-Élysées, FO et la Marche pour le climat, c'était très anti-Macron quand même dans les slogans. C'était « On est encore là, Macron, même si tu ne le veux pas, on est là ». Ça, c'était une sorte de chanson que j'ai entendue et sur les Champs-Élysées et dans la Marche pour le climat.
Et c'est Macron, c'est sa personne c'est quand même qui est
Macron
toujours la cible,
et les retraites,
pas du tout le Premier ministre.
Les retraites, l'inquiétude pour les retraites, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait quand même un petit peu ciment entre tous ces gens.
Brice Teinturier, pour vous, c'était quoi le feu du jour? C'était plutôt le retour raté des Gilets jaunes ou cette Marche pour le climat?
C'était déjà la concomitance des deux mouvements et un mouvement descendant qui en réalité celui des Gilets jaunes arrive de moins en moins à mobiliser, du coup qui laisse la place, alors on ne s'était pas concerté mais moi j'étais dans le haut du boulevard Saint-Michel donc j'ai vu la partie effectivement Black Bloc, défoncer une banque, un abribus, etc. Et on voyait bien que ça empêchait l'autre mouvement qui lui est un mouvement ascendant dans la société française, celui qui veut prendre en compte l'urgence climatique et qui du coup l'empêchait de défiler et de se manifester. Donc c'est cette radicalisation, mais de plus en plus rejetée par les Français, de ce qu'il reste d'un mouvement de gilets jaunes qui est de plus en plus infiltré par des éléments extrêmement radicaux et qui sont là pour casser. Et puis une préoccupation montante, parce qu'effectivement, il y a encore quelques mois, quelques années, l'environnement d'abord n'était pas la priorité des Français, et puis ensuite opposer réellement deux catégories de Français. C'est toujours vrai, il y a une sociologie de ceux qui estiment que l'environnement doit être la priorité, ce sont des gens plutôt aisés, plutôt les cadres moyens supérieurs.
Fin du mois.
Voilà, plutôt sympathisants de gauche, mais ça, c'est le vieux schéma. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'une fois qu'on a reconstaté ça, il faut être attentif au fait que maintenant, chez les plus de 60 ans par exemple, l'environnement est aussi la deuxième préoccupation. Chez les Français qui se considèrent comme faisant partie des catégories populaires, l'environnement fait jeu égal avec le pouvoir d'achat. Donc on a une préoccupation qui fait tache d'huile. Ce mouvement, il devait permettre l'expression justement dans la rue sur un mode pacifique de cette préoccupation. Et c'est la concomitance donc, de ces deux mouvements moi, qui m'a frappé.
Puisque vous avez été témoin de l'action des Black Blocs, alors racontez-nous, vous avez eu l'impression d'une grande organisation, d'une grande violence
Ah, d'une grande violence, oui. Mais il y a quelques centaines de personnes qui étaient... Il y avait quelques gilets jaunes, qui avaient un gilet jaune. Il y avait des personnes qui avaient un gilet jaune. Des Black Blocs qui étaient en noir, la plupart...
Cagoulés, pour pas qu'on puisse les reconnaître.
Entre la partie, tout à fait, et entre la partie du mouvement sur l'environnement qui démarrait au niveau du Luxembourg, eh bien, les Black Blocs étaient entre Luxembourg et Port-Royal. Et du coup, c'est là où il y a eu des violences, des abribus, des incendies de poubelles, de scooters, une vitrine taguée puis défoncée de banque. Et comme vous l'avez rappelé, à un moment donné, des CRS qui ont fait refluer ces mouvements. Donc ils étaient un peu coincés entre le haut de la manifestation pour l'environnement et puis la partie vers le RER Port-Royal et là où il y avait des CRS.
Alors justement, retour sur cette journée. Donc le dispositif de sécurité, 7500 forces de l'ordre, on l'a dit, hein, était à la hauteur de l'inquiétude des autorités. Car les colères sont nombreuses, on en a parlé, syndicalistes, militants écologistes et bien sûr les gilets jaunes. Beaucoup de manifestants ont d'ailleurs appelé à une convergence des luttes. Reportage dans les rues de Paris de Laszlo Gélabert, Marion Vigreux et Paul-Rémy Barjavel.
Nathalie Guiraudou est gilet jaune depuis le début du mouvement. Cette Montpelliéraine a traversé la France avec un groupe de 5 amis. Mais pour ce 45e samedi de manifestation, difficile de montrer ses couleurs.
On m'a demandé d'ouvrir mon sac, j'avais mon gilet jaune dans le sac, on m'a demandé de le mettre à la poubelle, sinon j'avais pas le droit de venir. Quoi. Là, franchement, non mais c'est un truc de fou.
Paris, quadrillé. 7500 gendarmes et policiers ont été mobilisés. Une démonstration de force pour empêcher les rassemblements non autorisés. Impossible pour le groupe d'amis de rejoindre les Champs-Élysées, interdit d'accès. Nathalie fondait pourtant beaucoup d'espoir sur cette journée comme d'autres gilets jaunes présents.
C'est important parce qu'on savait qu'aujourd'hui c'était une journée où toutes les luttes allaient se rassembler. Voilà, donc ça on le savait déjà avant l'été, on s'était organisé avant l'été pour pouvoir monter à Paris aujourd'hui, samedi 21.
Moi je voulais m'exprimer toujours de la même manière hein, sur les problématiques d'inégalité, les problématiques climatiques, donc je trouvais que c'était une bonne occasion, ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur un de ces actes, donc et je trouvais que c'était une journée propice à cela.
Le rêve d'une convergence des luttes, même si pour l'instant les cortèges sont bien séparés. D'autres manifestations avaient lieu aujourd'hui dans les rues de Paris. À l'appel du syndicat Force ouvrière, plusieurs milliers de personnes ont défilé contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Un syndicat qui défile seul, même si son chef de file a bien conscience qu'il va falloir rassembler.
Ce qu'il faudra, si nous voulons gagner, être entendus sur ce dossier-là, c'est réussir à convaincre le plus grand nombre. Notre force sera notre nombre.
À quelques rues de là, autre cortège, autre mot d'ordre. Cette fois, c'est pour défendre la planète que des milliers de personnes se sont rassemblées. La marche pour le climat. En première ligne, les lycéens, déjà dans la rue hier.
La jeunesse, je pense qu'elle s'est rendue compte que c'est le moment en fait d'agir parce qu'on n'a plus le temps. Et le climat, l'érosion de la biodiversité, les océans qui montent, la pollution, ça c'est des causes qui nous tiennent à cœur parce que c'est le monde dans lequel on vit et on va vivre.
Parmi ces lycéens, quelques gilets jaunes sont présents.
Fin du monde, fin du mois, même logique, même combat. Même responsable, même combat. On en a plein des déclinaisons comme ça et je pense que ce slogan résume bien Pourquoi en fait on retrouve des gilets jaunes dans les climats et pourquoi on va retrouver des écologistes chez les gilets jaunes.
Pas du monde, pas du mois, même combat.
C'est important que toutes les opinions, tous les avis soient rassemblés pour cette cause qui est le climat parce qu'on ne peut pas ne pas se sentir concerné par le climat, par le réchauffement climatique, par la pollution. Ça concerne tout le monde, ça concerne tous les habitants de Paris, de la France, du monde. Alors tous les partis, tous les mouvements doivent se sentir mobilisés et c'est important que tout le monde soit là aujourd'hui.
La marche pour le climat aujourd'hui a rassemblé massivement, mais elle a été émaillée d'incidents. Selon la préfecture, 1000 manifestants d'ultra-gauche ont infiltré le cortège. Des banques ont été prises pour cible et des scooters incendiés.
Alors, question SMS, téléspectateurs. Y a-t-il une réelle convergence entre les revendications des Gilets jaunes et celles des marches pour le climat, Emmanuel Anison? Parce qu'on rappelle que les Gilets jaunes, à l'origine, ce sont quand même des automobilistes qui se plaignaient de la hausse des taxes sur l'essence.
Oui, alors évidemment, au départ, ça paraît très éloigné. Après, ouais. Au fur et à mesure de leurs revendications, il y a aussi l'idée qu'il faut dénoncer les pollutions de l'État, des grandes entreprises internationales, de Total, etc. Donc, c'est assez diversifié. Mais ceci dit, cette convergence, au moment, justement, la journée du 16 mars, c'est intéressant. À ce moment-là, les Gilets jaunes étaient forts et disaient à ceux du climat « rejoignez-nous ». Aujourd'hui, les gilets jaunes étaient faibles.
C'était le contraire.
Et ils ont rejoint le climat en disant « mais le climat ne veut pas de nous ». Moi, c'est ce que j'entendais aujourd'hui.
Est-ce qu'on ne va pas avoir des samedis du climat plutôt que les samedis du gilet jaune maintenant? Non.
Je crois qu'il y a une potentialité autour de la question environnementale, oui, d'extension des modes d'expression et qui se limiteront, à mon avis, de moins en moins à des simples pétitions ou à des simples demandes. Donc on devrait avoir des mouvements qui s'amplifieraient. Encore une fois, le vieux schéma de quelque chose d'assez limité, c'est ce qu'il ne faut surtout pas rater parce que c'est faux ce schéma-là. Il faut vraiment comprendre que ça se développe et que ça va toucher de plus en plus, je pense, toute une génération et au-delà d'une génération, toute la société.
Sur la convergence des luttes, Cécile Cornudet, il y a ce témoignage dans l'Express d'un gilet jaune qui dit « Macron a lancé sa réforme des retraites, les gens vont de plus en plus mal, plus que jamais, on doit se mettre en travers de sa route ».
Oui, c'est ce que je vous disais, on sent Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que c'est pacifique, les grandes marches pour le climat, que ce n'est pas extrêmement dur contre le pouvoir. Et d'ailleurs, dans les premières grandes marches, Emmanuel Macron, il avait envoyé des ministres à lui, Gabriel Attal et Brune Poirson, dans les manifestations pour dire « Regardez, on est de votre côté, c'est un mouvement légitime ». Aujourd'hui, je pense qu'il ne le fait plus. Je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de slogans contre lui parce qu'en fait, ce que veulent dire tous ces gens dans la rue, c'est bah, « Les pouvoirs publics, donc Emmanuel Macron, ne font pas assez pour le climat, donc il faut bouger là-dessus ». Donc c'est vrai qu'il y a un vrai danger, même si on essaye de le présenter comme quelque chose de pacifique.
Sauf que Nicolas Chapuis, maintenant, toute manifestation alors, est polluée, entre guillemets, par les Black Blocs qui viennent délégitimer tout cortège en s'infiltrant et en faisant des violences qui, du coup, deviennent intolérables.
Alors, pour les marches pour le climat, c'est la première qui connaît des difficultés. Jusqu'à présent, c'était justement sa particularité. Les marches pour le climat qui s'étaient passées en France avaient été quasiment toutes pacifiques. Il y avait une expression d'une forme de radicalité, si on peut appeler ça comme ça, sur un pont à Paris où il y avait eu un sit-in où les manifestants refusaient de
En fait, il y a une différence entre la désobéissance civile
voilà, exactement.
Et le fait de s'en prendre à une banque en
exactement.
Cassant le...
Donc, jusqu'à présent, toutes les actions pour le climat ont été très pacifiques et ont été plutôt bien admises par les Français en général. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que ça se passe mal, avec des éléments qui viennent plutôt de l'extérieur du mouvement et qui viennent polluer la tête de cortège. Mais c'est clair que pour les forces de l'ordre, il y a des signaux d'alerte sur la question du climat qui sont très clairs, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'une radicalisation d'une partie du mouvement. La mouvance environnementaliste, écologiste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, elle est très, très, très diverse. Elle est très, très diverse. Et entre les gens qui marchent aujourd'hui pour le climat, avec des manifestants très jeunes, comme on l'a vu dans le reportage, et un certain nombre de groupes qui sont très politisés et radicalisés, les antispécistes, qui sont sur un type d'action qui sont quand même beaucoup plus durs que ce qu'on voit là, il y a toute une palette qui inquiète les forces de sécurité. Parce qu'ils se disent, une fois que les gens auront fini de défiler dans la rue 3, 4, 5, 6 fois, comme tous les mouvements sociaux, au bout d'un moment, s'ils n'obtiennent pas de résultats, est-ce qu'ils ne vont pas se tourner vers d'autres types d'actions? Et la deuxième partie qui les inquiète énormément, c'est ce mouvement qui vient d'Angleterre, Extinction Rebellion, donc ceux qui étaient sur le pont et qui faisaient des actions de désobéissance civile. En Angleterre, c'est un mouvement qui est très puissant depuis 2-3 ans, qui s'est structuré avec plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de sympathisants. Alors, bon, c'est toujours compliqué de savoir, mais c'est un mouvement qui est très puissant. Et ça arrive de plus en plus en France avec des modes d'action qui sont extrêmement gênant pour les forces de l'ordre, parce qu'on l'avait vu sur ces images où on voyait des jeunes qui étaient enchaînés sur le pont assis. Forcément, pour les déloger, il y a un usage de la force par la police qui est dérangeant, parce que quand on violente quelqu'un qui est assis, forcément, les images sont extrêmement mauvaises pour la police. Et ça, face à ces modes d'action qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont en tout cas innovants pour les mouvements sociaux en France ces dernières années, les forces de l'ordre sont assez inquiètes, parce que pour les gérer, c'est très compliqué, surtout quand cette population est très jeune, il ne faut pas donner l'impression que le gouvernement et les forces de l'ordre sont en train de taper sur leur jeunesse, tout simplement.
Et puis il y a une bataille médiatique, hein. C'est le préfet de police qui disait ce matin, une poubelle qui brûle et qui tourne en boucle sur les chaînes d'info donne l'impression d'un Paris à feu et à sang.
Il y a l'aspect symbolique et médiatique, donc il y a la question de l'ordre et de la capacité de l'État à maintenir l'ordre public. Et puis je crois qu'il y a une inquiétude du côté des pouvoirs publics et du côté du gouvernement, qui est qu'on passe avec un gradient d'un sentiment d'urgence. S'il y a urgence sur un sujet, ça peut être le climat, eh bien il autorise une forme de radicalisation. Il y a une tradition aussi radicale au sein de certaines mouvances écologistes. Donc l'urgence autorise la radicalisation et la radicalisation peut autoriser la violence. Et c'est ça qui aujourd'hui fermente, et on ne sait pas très bien si les formes, on va dire, de pacifiques autour de la question environnementale vont l'emporter et continuer à dominer, ou si on ne va pas progressivement connaître aussi ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes. Il faut se radicaliser parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut exiger, et du coup on légitime aussi une forme de violence.
Pour revenir sur les Gilets jaunes, Emmanuel, on disait l'an dernier qu'ils étaient organisés en ce sens que dans Paris, ils cachaient la veille sur les parcours des gilets jaunes et leur attirail. J'ai même entendu dire, alors vous me direz c'est vrai, que maintenant il y avait même certains qui louaient des appartements pour y organiser des bases arrières presque.
Bien sûr, ça fait partie des modes d'opératoire des Black Blocs, des gilets jaunes devenus...
ce qu'on appelle les ultra-jaunes.
Voilà, c'est ça, les ultra-jaunes, qui en fait opèrent de la même façon que que celle des Black Blocs depuis longtemps. Il y en a même qui, des Black Blocs qui se font livrer du matériel sur place sur le parcours de la manifestation via des relais classiques. Enfin voilà, toutes les méthodes sont bonnes pour avoir du matériel sur place. Ce que je voulais préciser par rapport à la radicalisation, c'est que dans le cadre d'une enquête que j'avais faite sur les Black Blocs cette année pour l'Obs, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient venus à la violence et au Black Bloc par l'écologie. Il ne faut pas oublier que Sivens, que Notre-Dame-des-Landes, que les zadistes sont sur cette ligne-là. Et donc, dans le cadre, dans les troupes des Black Blocs, il y en a beaucoup qui sont très sensibles à cette question-là.
Mais pour dire sur les Gilets jaunes, est-ce qu'on peut dire que ceux qui continuent de manifester, qui étaient là aujourd'hui, c'est la frange la plus ultra? Et donc, on a raison de les rebaptiser les ultra-jaunes.
Alors, c'est plus.
Qui ont pris des cours, vous nous expliquez l'an dernier que certains avaient pris des cours auprès des Black Blocs d'ailleurs.
Oui, hein, mais pour être alors, plus organisés. Certainement qu'une partie de ceux-ci était sur place aujourd'hui, sauf qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui qui sont interdits de territoire, qui ont eu des problèmes judiciaires. Enfin, il y a quand même eu. Ils ont connu beaucoup de problèmes ces derniers mois, ouais. Tous ces ultra jaunes. Mais il y a surtout.
Ils sont harcelés par l'appareil d'État, c'est ça?
Ah oui, oui, il y a eu. Ben oui, c'est ce qui fait que il y a à la fois une efficacité sur le terrain et il y a une grande efficacité en amont.
Traitement judiciaire.
Oui,
il y a eu. Traitement judiciaire.
Oui, tout à fait. Ouais. Et ce qui a empêché beaucoup de ces Black Blocs d'être présents les samedis, en fait. Et aujourd'hui. Un certain nombre ne peuvent plus être sur Paris, sur Toulouse, enfin là où il y a des foyers chauds. Certains ont pris de la prison. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont été assez décimés quand même dans les...
Vous avez rencontré Maxime Nicole, hein, l'un des leaders là.
Oui, mais justement, j'étais avec lui tout à l'heure. Oui, tout
et
à l'heure.
Alors, il n'est pas déprimé de voir que le mouvement s'étiole?
Alors, lui continuait de penser que une suite était possible, ouais. Mais autour de lui, dans les autres, en fait, parce que encore une fois, les figures, en fait, il représente lui. Évidemment, il a un live où il est important, mais autour de lui, il y a aussi d'autres figures de l'ombre qu'on connaît moins, mais qui sont en fait ouais. aussi influentes. Et il y avait quand même une vraie déception aujourd'hui, clairement.
On va parler. Vous avez sorti un livre avec Ingrid Levavasseur qui s'appelle Restez digne. Ce matin, elle était sur France Info. Elle disait ne plus vouloir participer à ces samedis de gilets jaunes parce qu'elle était fatiguée et même dans sa chair par cette violence à son égard et cette violence qui est l'ADN presque, on a l'impression maintenant, de ces samedis de gilets jaunes.
Bah, Ingrid Levavasseur, elle a été exclue d'une manifestation le 17 février de manière extrêmement violente, c'est ce qu'elle raconte dans le livre. Elle a été exclue d'ailleurs le lendemain aussi et quasi coursée en voiture. Enfin, c'était une scène digne d'un film. Donc, elle a été très marquée par la violence de ce mouvement. Et aujourd'hui, elle ne se qualifie plus que de gilet jaune. Elle l'est dans le cœur.
Pourquoi est-elle la cible ? Pourquoi est-elle attaquée par les siens ? Ce sont les gilets jaunes eux-mêmes qui exercent une violence contre elle.
Ah, de toute façon, il y a une violence interne au mouvement, il y a une violence des réseaux sociaux qui est absolument énorme. Elle a eu des menaces de viol, des menaces de mort, elle est obligée de porter plainte, bien sûr. Et Jérôme Rodriguez a craqué il y a 15 jours en faisant un burn-out et en s'arrêtant, en allant en maison de repos, parce qu'il avait trop d'attaques aussi sur les réseaux sociaux, que sa fille était menacée. Enfin, il y a une violence, alors interne, externe, parce que sur les réseaux sociaux, la violence, elle est aussi externe. Et puis, au sein du mouvement, il y a une violence aussi, évidemment, bien sûr.
Donc, c'est un sacerdoce. On est harcelé par la justice. Et en plus, à l'intérieur du mouvement où l'on devrait avoir du réconfort, on est harcelé sur les réseaux sociaux.
Non, mais il y a aussi une grande solidarité. Enfin, on ne peut pas caricaturer le mouvement non plus.
Ingrid Levavasseur, elle avait l'air d'être un peu défaite ce matin.
Oui, mais alors, elle est défaite, mais Ingrid Levavasseur, elle a aussi un réseau de gilets jaunes qui la soutiennent depuis le début, qui est sa communauté, qui est extrêmement fidèle et réconfortante pour elle. Donc, il y a les deux dans ce mouvement, comme d'ailleurs, je pense, dans toute communauté humaine, surtout dans des moments, on va dire, d'urgence, de tension. Enfin, c'est comme une situation. C'est un mouvement de révolte. Hein. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, je pense que le meilleur cohabite avec le pire. Et clairement, Ingrid Levavasseur, c'est aussi une femme. Et je pense que le fait d'être une femme n'a pas aidé, parce que j'ai pu lire son courrier et ce qu'elle reçoit comme insulte, c'est très souvent lié au fait que c'est une femme. Et sans doute que.
Y compris, elle a dit ce matin, de la part d'autres femmes.
Ont été moins attaquées, y compris de la part d'autres femmes, oui.
Alors, les défilés, on l'a vu, ont été l'objet de violences cet après-midi, mais il existe une autre forme de contestation plus sourde, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile, un mode d'expression qui séduit de plus en plus les militants écologistes. D'ailleurs, cet après-midi, sur le pont de Tolbiac à Paris, des manifestants bloquaient des voitures. Ce sont donc des pacifistes, mais déterminés, et ils rivalisent d'imagination pour interpeller l'opinion publique. Et c'est le cas, par exemple, de ce qu'on a appelé les décrocheurs. Voyez ce reportage de Mélanie Lunès et Thomas Buyer.
C'était une action baptisée « Décrochons Macron ». Dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon, des militants climatiques dénoncent le vide de la politique gouvernementale. Un geste de désobéissance civile. Deux militants seront jugés devant le tribunal correctionnel pour vol en réunion. Mais décision inattendue cette semaine, le juge opte pour la relaxe.
C'est vraiment une belle décision qui a été prise hier, qui légitime notre action. La société aujourd'hui, et à travers aussi la justice, est en train d'évoluer, en train de prendre conscience qu'il y a une urgence à agir.
Face au dérèglement climatique, la mobilisation non violente de citoyens serait donc légitime aux yeux de la justice, au motif d'état de nécessité, inacceptable pour la ministre de la Transition écologique.
Des comportements inciviques ne méritent pas d'être encouragés par des décisions de ce type.
Des actions de désobéissance, comme lors du contre-G7. Rendez-vous discret, près de Bayonne, dans un élevage de volailles. Sous le hangar, un briefing de la mobilisation à venir.
Et on a donc choisi de cibler une multinationale particulièrement symbolique des méfaits des multinationales, qui est Bayer Monsanto, qui a une grosse usine de production de semences de maïs, non loin d'ici. Nous allons essayer de la bloquer, de la fermer symboliquement.
Donc, il y a trois petits groupes qui vont bloquer chacune des portes, et simultanément, il y a de la terre qui va arriver avec une benne de terre qui va se déverser devant la porte.
Répartition des rôles, explication de leurs droits et d'une potentielle garde à vue, et même transmission de numéros d'avocat. Les désobéissants sont prévenus des risques juridiques qu'ils encourent.
Il faut toujours se préparer au pire. Globalement, moi je suis prêt d'un main à couper que ça va bien se passer, que si les policiers sont là, ils vont nous laisser faire, que peut-être qu'ils font 2-3 prises d'identité, mais a priori, vu ce qu'on va faire, ils ne vont pas mettre tout le monde en garde à vue, mais au cas où le pire se produise, et il faut que les copains ne soient pas en train d'improviser, quoi. Aujourd'hui, c'est nécessaire de passer par là, qu'on ne peut plus se contenter d'actions gentilles, traditionnelles. Alors même si on reste non-violent, sans dégradation, à visage découvert, c'est très important pour nous, parce que l'important, c'est que le message puisse passer et être compris. Mais c'est vrai que là, on enfreint la loi, on assume ça.
Des mobilisations illégales qui attirent chaque mois de plus en plus de militants, comme cette enseignante en histoire.
Ça fait 15 ans qu'on fait des manifs, ça ne marche pas, on n'est pas entendu. En plus, maintenant, on est réprimés dans la rue, on nous traite de personnes violentes et violents. Du coup, essayer d'autres stratégies, je pense que c'est important.
Leur objectif, bloquer l'usine Monsanto Bayer, empire agro-industriel, qui empoisonnerait, selon eux, les paysans, les champs et nos assiettes à cause du glyphosate. Action emblématique, installer un potager sans pesticides.
Là, ce qu'on veut faire, c'est symboliser devant Monsanto ce que c'est réellement que l'agriculture, comme nous on la vit, comme nous on la fait tous les jours chez nous. Comment est-ce qu'une terre, elle est vivante? Comment est-ce qu'on fait pousser dessus, etc.
Le G7, ses États membres sont absolument incapables de mettre en place des outils pour soutenir et accélérer la sortie des pesticides.
Un petit groupe parvient à s'infiltrer dans l'usine et à perturber le travail.
Monsanto. Bah, yeah.
Des activistes de plus en plus jeunes qui passent une partie de leurs vacances à militer.
Moi, mes parents, ils pourraient avoir peur, hein, je pense. D'ailleurs, ils ne savent pas que je suis là actuellement. Ils vont l'apprendre plus tard, je leur dirai moi-même. Mais il peut y avoir une appréhension, mais ils ont confiance en moi, en mon pacifisme, enfin, en la personne que je suis.
D'autres découvrent une nouvelle forme d'engagement.
Moi, j'aurais été écolo, mais je ne méditais pas parce que ce n'était pas mon milieu. Moi, je suis d'un milieu très bourgeois, on ne milite pas. Tout d'un coup, on se dit, ah, mais il y a d'autres gens qui pensent comme nous aussi, on peut peut-être faire quelque chose. Et du coup, on passe de la résignation et du désespoir, enfin, désespoir, on ne peut pas dire ça, mais de la résignation, de toute façon, on ne peut rien faire, rien ne changera jamais. Si on se met tous ensemble, peut-être on peut faire quelque chose.
Se mobiliser et se former jour après jour à la désobéissance civile. Cette fois-ci, il n'y aura aucune interpellation par les forces de l'ordre.
Alors, question téléspectateur, décrocher un portrait du président dans une mairie est une insulte à la République. Pourquoi relaxer les auteurs d'un tel acte ? Cécile Cornudet.
Oui, c'est une insulte à la République, c'est illégal et c'est fait pour, je dirais. Parce que, comme disait Brice, ils sont dans une recherche de radicalité. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, marcher pacifiquement, ne marche pas, ils cherchent autre chose. Ils se différencient des Gilets jaunes en décidant pour l'instant de ne pas choisir la violence physique. Peut-être parce qu'ils voient que les Gilets jaunes, un an après, ils ont du mal à exister. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas une légitimation de la répression policière du coup. Et sans doute parce qu'il y a aussi une bataille de communication. Ils veulent rester un mouvement pacifiste. Mais du coup, coup, ils ont clairement monté d'un cran. Ils cherchent à choquer, provoquer et à insulter la République. Et alors, pourquoi on les relaxe ? Eh bien, sans doute que le juge, là, cette fois, il a plus raisonné sur des questions politiques, lui-même étant sans doute sensible à la cause climatique, que à vraiment regarder le droit.
Alors, ça vous a étonné quand même, Brice Teinturier, que le juge donc légitime le fait de décrocher le portrait du président, ce qui est illégal, nous disait Cécile Cornudet, parce qu'il estime, je cite, l'état de nécessité, il estime la cause suffisante et que le gouvernement, finalement, n'en fait pas assez pour le climat.
Ce qu'on peut peut-être rappeler aux téléspectateurs, c'est ce que c'est que cet état de nécessité juridiquement. C'est l'article 122.7 du Code pénal qui dit que n'est pas pénalement responsable quelqu'un qui, face à un danger actuel ou imminent, qui le menace ou qui menace autrui ou qui menace un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien.
Donc on voit. Donc on est dans son bon droit.
Donc si cela signifie que Emmanuel Macron est une menace imminente sur un bien ou vis-à-vis d'autrui, et que décrocher son portrait, eh bien finalement, on peut considérer que ça relève de l'état de nécessité. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur
une
décision de justice, bien entendu. Mais le lien paraît quand même assez indirect. Il montre qu'effectivement, on est dans la politique et qu'il pose la question de la transgression de la loi qui permet parfois, dans le passé, qui a permis parfois de faire avancer la démocratie, mais qui nous fait sortir aussi, très souvent, du cadre démocratique. C'est ça qui est en jeu. C'est jusqu'où la transgression de la loi, jusqu'où l'insoumission est-elle un progrès ou au contraire, une régression démocratique sous couvert d'une lutte qui peut être parfaitement légitime, mais qui emprunte des modes d'action qui, eux, ne le sont pas.
Et alors, Nicolas Chapuis, on le voit, ces décrocheurs, comme on les appelle, sont galvanisés. Ils étaient cet après-midi sur le pont de Tolbiac, brandissant le portrait d'Emmanuel Macron, qu'ils avaient donc décroché des mairies, avec cette banderole « Macron, pollueur de la planète ». Alors d'ailleurs, c'était écrit en anglais, ce qui d'ailleurs témoigne d'une certaine sociologie. C'était écrit « Macron, polluter of the earth ».
Oui, on le voit, clairement, ils ont été boostés par cette décision judiciaire. On peut penser qu'elle sera peut-être cassée d'ailleurs. Enfin, il va y avoir,
il y a un appel.
Il va y avoir d'autres épisodes. Je ne connais pas le juge qui a pris cette décision et je ne sais pas.
Ça vous a surpris, on va dire.
Pas mon rôle. Ça a surpris tout le monde. C'est pas mon rôle de se prononcer dessus. Je pense qu'il y a aussi un peu un jeu, un peu de voilà. On se retrouve au tribunal avec une affaire qui, clairement, ne vaut pas grand-chose. Et je pense que le juge aussi envoie un message là-dessus. Il y a des affaires... Aujourd'hui, les tribunaux sont
encombrés.
On se retrouve avec une affaire qui ne mérite peut-être pas de consacrer autant de temps, d'y consacrer autant de temps. Et que, par cette décision un peu absurde, il y a peut-être aussi ce message-là. Mais c'est intéressant de les voir sur le pont de Tolbiac, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec ces portraits. On sent qu'il y a la recherche, qu'on disait avant, il y a la recherche d'une action qui marque d'une façon nouvelle de manifester. Et on l'entendait bien dans le sujet. Il y a la manifestation aujourd'hui, même si elle a été remise au goût du jour par les Gilets jaunes finalement cette année, on sent bien qu'elle trouve ses limites au bout d'un moment. On le voit très bien aujourd'hui. Force ouvrière a manifesté avec un nombre de gens assez important et finalement on en parle très peu parce qu'à côté
15 000,
voilà et parce qu'à côté il y a des manifestations qui se passent mal que voilà on parle beaucoup plus de ce qui va mal se passer des débordements des actions qui vont être plus spectaculaires ou plus même s'ils sont une dizaine sur le pont de Tolbiac avec des portraits on va en parler plus que 10 000 personnes ou 15 000 personnes qui vont manifester dans le calme donc on voit bien qu'il y a un essoufflement de la forme de protestation qui est la manifestation et on voit bien que chaque mouvement commence par là et finit par chercher d'autres moyens de faire parler de lui. Et c'est vrai que les décrocheurs, finalement, ils ont gagné cette bataille de la communication parce que leur action, elle est assez spectaculaire. Et finalement, leur offrir un procès et au tribunal, voilà, c'est peut-être finalement perdre cette bataille de la communication parce que eux, c'est ce qu'ils voulaient, c'est faire du bruit, c'est qu'on en parle. Mmh. Et le juge leur donne en plus une décision qui leur est favorable. Donc pour eux, c'est tout bénéfice. Voilà, ensuite, du point de vue judiciaire, c'est une farce un peu du début à la fin. Et franchement, ça ne vaut pas la peine.
Tout ça, si vous me permettez, est aussi la conséquence de la désaffiliation partisane des Français. C'est parce que les mouvements de contestation, de protestation, de revendication ne sont plus encadrés, canalisés par les partis politiques avec des forces militantes importantes, que du coup, on ne parle pas des mouvements syndicaux et de leurs manifestations, et on l'a vu encore aujourd'hui, et on parle beaucoup plus de ces autres formes qui échappent totalement à l'encadrement politique et qui cherchent des modes d'expression symboliques qui vont médiatiquement porter. Et ça marche, d'une certaine façon, ça marche, puisqu'on a plus parlé d'eux que de la manifestation organisée par Force Ouvrière sur les retraites.
De fait, Cécile Cornudet, ce matin, sondage via Voice dans Libération, 49% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour régler le problème, ou aux États pour régler le problème climatique. Et il y a surtout cette question. Quel type d'action est le plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique? Et il y a 26% des gens qui disent qu'il faut empêcher physiquement les gens d'utiliser leur voiture en période de canicule, ou qui veulent interdire les avions sur courte distance. Et j'ai aussi cette phrase de Cécile Duflot qui se félicite de la radicalisation des attentes du citoyen. Elle dit « radicalisez-vous ».
Oui, pour l'instant, ça ne va pas jusqu'à empêcher des Français de prendre l'avion, par exemple. Mais c'est vrai que ce sera la marche d'après. Aujourd'hui, c'est des actes symboliques contre la République. C'est aussi beaucoup d'actions contre des entreprises. Des boycotts de produits, des mobilisations contre des GAFAM, des choses comme ça. La marche d'après, ce sera effectivement une action contre les personnes si ça ne bouge pas.
Et contre leur voiture, une personne sur quatre.
Bon, pour l'instant, on ne le voit pas. Hein. C'est dans les sondages, mais je n'ai pas vu d'action spectaculaire comme ça. Et là, ils prendront le risque peut-être du coup de devenir moins populaires. Ou... En tout cas, c'est très compliqué pour des pouvoirs publics à gérer ça parce qu'on est dans des mots d'ordre très radicaux aussi. C'est pas juste enlever la taxe carbone pour le coup. C'est arrêtons de polluer, arrêtons les voitures, arrêtons de prendre l'avion. Enfin, c'est comment vous voulez qu'un...
Il y en a un sur quatre qui dit ça. C'est beaucoup,
oui,
quand même.
Ben voilà. Ce Donc on est. C'est ingérable pour le gouvernement pour l'instant. Et sa réponse, lui, c'est de dire il faut faire l'écologie des petits pas, organisons des marches pour ramasser. Donc il y a une sorte de décalage entre les attentes de ces manifestants et les réponses qu'aujourd'hui apporte le gouvernement. Qui est... Je sais pas comment ça va tourner.
Emmanuel Anison, interdire la voiture, c'est pas très gilet jaune, ça. Et d'ailleurs, la sociologie, on le voit, n'est pas du tout la même. On voyait dans le reportage une dame dire « moi, je viens d'un milieu très bourgeois ». On voit que les banderoles sont écrites en anglais.
Oui, évidemment que le gilet jaune utilise sa voiture et a besoin de sa voiture. Mais en revanche, sur ce constat que la manifestation classique et toutes les formes de contestation classique ne fonctionnent pas, même la manifestation gilet jaune, elle sortait complètement de l'ordinaire. Elle n'était pas déclarée, elle était sauvage, elle investissait les rues. Donc déjà, ils ont complètement innové par rapport à ça.
Et sur la forme, il y a une convergence, forme, mais pas sur le fond.
Sur le fond, il n'y a pas convergence. Mais sur la forme, et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez justement par rapport à ces nouvelles formes de contestation. Aujourd'hui, les gilets jaunes, par exemple, ils investissent Orly. Il y a la semaine dernière, avec l'opération spéciale pour dénoncer la vente des aéroports de Paris, etc. C'est encore une nouvelle forme de contestation qui, quand même, pourrait amener à bloquer aussi des usagers d'aéroports. Et puis, ce qu'il me disait cet après-midi, si on arrive aujourd'hui à une impasse, eux n'excluent pas l'idée d'actions pointues, éventuellement violentes, contre des entreprises, contre des personnes, et une évolution qui pourrait être encore une autre forme et éventuellement encore plus dangereuse. Quoi.
Oui, Brice Naturier.
En fait, le chiffre que vous avez cité, il rejoint ce qu'on mesure depuis maintenant quelques années, à savoir 20 à 23% de Français qui considèrent qu'il est légitime d'avoir recours à la violence pour satisfaire un certain nombre de revendications. Et ça monte à 30, 35% chez les plus jeunes, chez les moins de 40 ans, ou dans certaines formations politiques. Et donc, on est en train d'avoir de plus en plus des systèmes de pression sociale qui vont être d'empêcher, parce qu'on considère que c'est illégitime et que l'urgence le justifie, d'empêcher certaines personnes d'utiliser leur voiture. Il faut rappeler aussi que sur les carrefours des Gilets jaunes, on empêchait ou on obligeait ceux qui n'étaient pas des sympathisants Gilets jaunes, s'ils voulaient passer, à klaxonner pour approuver ou à mettre un gilet jaune à l'intérieur de la voiture. Donc vous avez des systèmes de pression qui se mettent en place et qui posent la question à un moment donné de la légitimité de la loi. On peut considérer que demain, il faudrait, même très rapidement, empêcher peut-être les gens de prendre des avions pour aller en week-end je ne sais où. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit d'interdire à des individus de le faire alors que la loi, qui est quand même le ferment de la légitimité, ne l'a pas encore instauré, ou est-ce qu'on peut s'autoriser, contre la loi à un moment présent, d'imposer ça au nom d'une cause à un certain nombre d'individus.
Donc si je vous ai bien compris, la décision de justice de relaxer ceux qui ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans les mairies parce qu'ils estimaient qu'Emmanuel Macron, parce qu'ils estimaient leur combat noble, ça vous inquiète ?
Non, mais là d'abord, le parquet, je crois, a fait appel. Et puis, ouais. Et puis on va voir. Je trouve que c'est symptomatique. C'est pas que ça m'inquiète.
On a le droit de s'affranchir de la loi si son combat est noble.
J'essaye de comprendre. Je le lis comme un symptôme supplémentaire de quelque chose qui se passe dans la société et qui, depuis maintenant, je crois, 2013, les bonnets rouges, une radicalisation, ouais. Une radicalité qui s'amplifie, va de plus en plus vers ce mode de contestation. Il faut juste ajouter qu'il y a une autre partie des Français ultra-majoritaire que, justement, cela effraie. Si le soutien et l'identification aux Gilets jaunes a considérablement reflué dans l'opinion publique, on était à 70% en décembre, on est plutôt aujourd'hui à 25-30%. C'est d'abord parce que des réponses ont été apportées, mais c'est aussi parce que ces formes de pression ou d'action violente, à un moment donné, ont provoqué un décrochage dans l'opinion du soutien.
Oui, Nicolas Chapuis.
Non, mais l'augmentation de la violence et du recours à la violence, on le voit, c'est linéaire ces dernières années. Et il ne peut finalement que s'accélérer dans les mois, années qui viennent, parce qu'il est à mettre en lien avec la menace. On a eu encore au début de la semaine les nouvelles prévisions pour la fin du siècle qui parlent d'une augmentation de la température dans le pire des cas de 7 degrés, ce qui revient à rendre un certain nombre de zones sur
Terre. Là, on a fait 1 degré et ces prévisions seraient plus 7.
Voilà, c'est ce qui revient à rendre une partie de la surface de la Terre totalement inhabitée. Donc je ne suis pas climatologue et je ne sais pas si ces prévisions sont exactes ou non. Mais clairement, cette imminence de la menace ne peut qu'entraîner une radicalisation plus grande et une radicalité plus grande, parce qu'un certain nombre d'individus dans la société vont estimer qu'il y a justement un état de nécessité qui est présent dès aujourd'hui. Et ça, c'est une pente sur laquelle on est déjà.
Et Cécile Cornudet, à cette radicalisation du combat écologiste, est-ce qu'on ne peut pas avoir une contre-radicalisation ? Je ne sais pas si vous avez vu, en Norvège, il y a ce parti qui a fait une percée aux dernières élections, qui est un parti anti-péage pour la bagnole, quoi, et qui a fait à Bergen...
un parti gilet 17... jaune.
Oui, un parti... bah oui, mais là, il s'appelle pas gilet jaune, il s'appelle anti-péage. Ils en ont assez de pays d'être des vaches à lait pour la voiture. Ils ont fait 17% à Bergen.
Peut-être. Là, on est en plein...
Et ils se sont structurés politiquement.
On est en plein dans la montée de cette prise de conscience et de l'environnement qui devient la préoccupation première, y compris dans les catégories populaires, y compris chez les personnes âgées. Ça fait un an que c'est en croissance. On n'a pas peut-être atteint le niveau de radicalité qu'on voit dans les pays du Nord autour de ces questions pour... aujourd'hui créer un contre-parti. Mais on voit des partis politiques essayer de se démarquer un petit peu. Par exemple, eh bien, il y avait Xavier Bertrand qui était dans une émission politique cette semaine sur France 2. Et lui, on sent qu'il, par exemple, dans le combat sur les pesticides, clairement, il est du côté des agriculteurs. Donc peut-être qu'il dit qu'il y a un moment, il pense qu'à un moment, il y aura un ras-le-bol du tout écolo et du tout écolo un peu dictatorial.
Est-ce que, par exemple, les automobilistes qui sont affublés d'une vignette critère 4 ou critère 5 ne se sentent pas humiliés et n'ont pas une envie de revanche face à ces bobos qui veulent leur interdire de prendre leur outil pour aller travailler, non ? Non, mais j'essaye de voir s'il n'y a pas, malheureusement, une contre-offensive face à cette exigence, à cet impératif écologique.
Je ne sais pas, vous répondrez mieux que moi, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience assez générale, ce que vous disiez, y compris des classes populaires ou utilisant leur voiture, du problème du climat.
Les gens se sentent stigmatisés quand ils sont voiture 5 et on leur dit avec ton taco, tu ne peux plus aller à Paris.
Oui, mais pour leurs enfants, ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent dans leur cantine.
Moi, je crois que ce qui est en train de monter, c'est quand même la prise de conscience que ce n'est pas qu'une question individuelle de circuler avec une voiture qui pollue énormément ou, en tous les cas, de faire plus ou moins d'efforts là-dessus, puisque les conséquences concernent l'ensemble de la société. C'est ce conflit de légitimité qui est en train de monter. Il y a une légitimité à la mobilité. Elle peut autoriser d'avoir la possibilité d'utiliser sa voiture. Et puis, il y a une autre légitimité qui est en train de monter en puissance et qui dit qu'il faut minimiser cela. Parce que les conséquences sont dramatiques et elles concernent l'ensemble de la société. Vous verrez que ça touchera la souveraineté nationale. Parce qu'à un moment donné, on aura de plus en plus de mouvements qui diront « Mais ce que font les Américains ou les Chinois, ça ne concerne pas que les Américains ou les Chinois, ça concerne l'ensemble de la planète. » Donc, à chaque fois, c'est la souveraineté individuelle qui est questionnée et sa limite.
On le voit
ou
déjà
la
avec
souveraineté de plus en plus nationale.
On le voit déjà avec l'Amazonie.
Le droit d'ingérence écologique, on l'a vu avec l'Amazonie. Hein.
Absolument. Et donc, l'enjeu crucial, c'est quand même de savoir si les pouvoirs politiques en place, ceux qui détiennent la possibilité d'agir, ont la capacité de bien entendre les signaux qui sont envoyés par la société et de les prendre en compte à leur juste mesure ou pas. S'ils nous donnent le sentiment de ne pas les prendre en compte, on aura ce qu'il y avait dans votre reportage, c'est-à-dire des Français qui disent qu'il ne se passe rien quand on manifeste pacifiquement. Ouais. Donc on aura une hausse de la radicalité et ensuite une hausse de la violence.
Alors les Gilets jaunes n'ont pas réussi cet après-midi à former un cortège, on l'a dit. Faut-il pour autant enterrer le mouvement ? Une équipe de C'est dans l'air s'est rendue dans un ancien bastion des Gilets jaunes, Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Et vous allez le voir, lorsqu'ils sont nombreux à avoir rangé leurs gilets, la colère, elle, est bien intacte. Reportage de Laura Rado et Marion Vigreux.
Ils continuent de se donner rendez-vous ici chaque semaine. Une poignée de gilets jaunes, le noyau dur de Saint-Brieuc. Et si beaucoup ont déserté, Tristan, lui, croit dur comme fer en l'avenir du mouvement.
Forcément qu'il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui ont arrêté pendant 3-4 mois, qui aujourd'hui sont en train de revenir. En fait, ça tourne. Là, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on sent que la mobilisation est en train de reprendre. Et voilà, que je pense que le mouvement des Gilets jaunes, là, pour l'instant, il est très loin d'être fini, le temps qu'on ne sera pas entendu.
Car pour eux, les annonces successives d'Emmanuel Macron n'ont eu aucun impact sur leur pouvoir d'achat. Le président, dit-il, est resté sourd à leurs revendications.
Il a posé 17 milliards d'euros sur la table. Personnellement, sur mon salaire, j'en vois pas la différence. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui continuent le mouvement aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été entendu. La TVA 0% sur les produits de première nécessité n'a pas été entendue. Le rétablissement de l'ISF n'a pas été entendu. Le RIC n'a pas été entendu, etc.
Autant de raisons de relancer la mobilisation, entamée ici, il y a un an.
Voilà, des restes de notre cabane.
Saint-Brieuc était alors l'un des bastions de la révolte. Le 12 janvier, plusieurs milliers de manifestants affluent de toute la Bretagne. Beaucoup sont convaincus de pouvoir transformer leur colère en mouvement politique. Mais la tentative de structuration échoue. Un maire a pourtant tendu la main aux Gilets jaunes. Après leur expulsion du rond-point, il leur prête un terrain communal pour y installer quelque temps leur quartier général.
Il y avait trois emplacements, on va dire une sorte de salle collective, une chambre et une petite cuisine. Je trouvais bien qu'un élu, de base, un élu de terrain, un maire, ne fasse pas autant preuve d'arrogance que le président de la République qui les écoutait pas à l'époque. Je pense que le lien avec les décideurs est toujours aussi distendu, voire même un peu plus. Je pense que beaucoup doivent avoir l'impression d'avoir été pas avoir été entendus et surtout de ne pas avoir eu satisfaction.
Elles non plus ne considèrent pas avoir obtenu satisfaction. Cet hiver, Christine n'a raté aucun rassemblement dans la région.
Ça fait drôle parce que ça fait un moment que j'avais pas mis mon nez dedans, en fait.
Vous ressentez quoi ?
Ben, ça me rappelle plein de trucs, en fait. Je vois pas beaucoup de choses qui ont changé, en fait. On a dit ce qu'on voulait, on a dit plein de choses, mais moi, pour mon truc perso, je vois pas beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à ça.
Toujours aussi difficile de boucler les fins de mois. Mais cette mère de famille a récemment décidé d'enlever son gilet jaune, épuisée par des mois de contestation.
Certains en oublient leur vie de famille, en fait. Ils sont trop dedans. Ils laissent un peu leur vie de famille de côté, en fait.
Christine regrette aussi la logique d'affrontement choisie par certains de ses anciens camarades. Une très mauvaise image, selon elle.
Même si tu n'es pas d'accord, insulter, ça ne va pas te donner la preuve. Ils insultent, ils cassent, machin, et au final, il y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose, quoi. Or, c'est peut-être pas la solution. Il y en a qui disent que la solution, c'est justement avoir de la violence, et quand ils en remarquent qu'il y a de la violence, qu'il y a des choses cassées, brûlées, qu'ils vont peut-être réagir au niveau de l'État. Je ne suis pas convaincue, quoi.
Comment faire revivre un mouvement qui s'essouffle ? La question agite les Gilets jaunes. La solution pourrait venir d'une alliance des colères, retraite, climat, pouvoir d'achat. Beaucoup appellent aujourd'hui à la convergence des luttes.
Alors, question téléspectateurs, les Gilets jaunes ont-ils réussi à dompter leur colère, Emmanuel Anison ? Ou alors, sont-ils comme Priscilla Ludowski, l'une des leaders, qui disait qu'elle était fatiguée psychologiquement et surtout ruinée par tous les déplacements de l'an dernier?
C'est surtout ça. En fait, la colère, elle est là vraiment quand tous disent que ces mesures n'ont pas résolu leurs problèmes, que les fins de mois sont toujours aussi compliquées. La demande démocratique aussi reste pour eux inachevée, enfin, sans réponse. Et c'est vrai qu'ils sont usés, ils sont fatigués. Beaucoup ont eu des problèmes, alors des entreprises qui ont fait faillite, des familles qui ont explosé. Parmi les figures des Gilets jaunes, on ne le dit pas, mais la plupart se sont séparés, ont eu des gros problèmes familiaux.
Ce qu'ils disaient dans le reportage, certains ont oublié leur vie de famille.
Ouais. Complètement. Des couples ont explosé. Ouais. L'un me disait récemment qu'il consultait une psychologue 3 fois par semaine pour tenir le coup. Ouais. Quelqu'un dont on a comme ça, on pourrait croire que c'était un gros dur, mais en fait, il est 3 fois par semaine avec la psy parce qu'il me dit sinon je ne tiendrai pas. Non, il y a une usure évidemment énorme. Ils ont passé des mois et des mois. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont sacrifié leur famille, leurs amis. Beaucoup sont fâchés avec leurs amis aussi. Donc c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, repartir sur le terrain pour beaucoup d'entre eux, c'est très compliqué. Il y en a un qui a eu un enfant, d'autres qui s'est marié, d'autres qui... Voilà. Et donc il y a un moment qui a promis à sa femme d'arrêter. C'est vrai qu'aujourd'hui, repartir tel qu'ils ont passé l'année passée, ça semble vraiment très compliqué.
Mais la colère est là. Ça a été un moment très fort. Vous étiez frappé pendant le reportage par cette dame qui a sorti... Un album.
Donc on voit bien que c'est pas simplement une revendication, un conflit. Ça a été des moments de vie extrêmement puissants pour les Gilets jaunes. Ils ont eu le sentiment en plus d'être enfin considérés, entendus, reconnus. Du coup, s'il y a de la frustration qui reste et un empêchement de continuer pour des raisons financières, c'est très important parce qu'on voit bien que cette frustration, elle créera de la rancœur, du ressentiment qui ne disparaîtra pas. Et c'est toujours le même enjeu. Comment est-ce qu'on canalise ça et comment est-ce qu'ensuite on arrive à le réduire? Mais la puissance du mouvement, ce que ça a signifié pour les individus et politiquement pour l'ensemble de la société, c'est indéniablement un des plus grands mouvements qui s'est produit au cours des 15 dernières années.
Voilà, et il y a eu cette socialisation tous les samedis, même les soirs de Noël, du jour de l'an, la joie de se retrouver avec ses voisins.
Ils ont créé un réseau social complètement.
Et c'est pour ça que le gouvernement hier a annoncé qu'il allait rouvrir des bistrots dans les villages?
Mais je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais en tous les cas, le gouvernement, je crois, a compris que c'était un mouvement extrêmement profond, a changé beaucoup de choses à la fois dans sa façon de s'adresser aux Français, dans sa façon, puisque vous évoquiez la crise démocratique aussi, d'essayer d'y pallier en faisant beaucoup plus de consultations, donc dans les termes employés. Et puis oui, il y a aussi des tas de mesures, au-delà des mesures économiques qui ont été prises, qui peuvent permettre un petit peu de cautériser des plaies qui restent béantes dans ce pays, éminemment fracturées, on le dit depuis des années, et avec des individus qui se sentent broyés. Une bipolarisation du marché du travail et des individus qui se sentent broyés. Donc il faut bien qu'on arrive à retrouver un socle commun.
Emmanuel, on disait beaucoup que c'était les abstentionnistes, les Gilets jaunes. Ils le sont toujours ou certains se sont forgés une conscience politique, ont fait leur choix, plutôt parmi les partis existants?
Alors en fait... ils se sont forgés une conscience politique, leurs yeux se sont ouverts, on va dire, sur le monde qui les entoure pour beaucoup d'entre eux qui ne votaient pas, ne manifestaient pas, etc. De là, est-ce qu'ils vont devenir des votants? C'est autre chose, puisqu'ils ne croient, pour beaucoup d'entre eux, ne croient pas au système aujourd'hui représentatif actuel. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont ouvert les yeux qu'ils vont se mettre à croire au système qu'on leur propose. Ils le rejettent. Hein. C'est bien la raison pour laquelle ils cherchent aujourd'hui d'autres formes de manifestations et de démonstrations de leur colère ou de leur
frustration. Alors, Cécile Cornudet, dans le reportage, on entendait quelqu'un dire il y a eu 17 milliards, on ne les a pas vus, les 17 milliards de Macron. Et ce matin, Ingrid Levavasseur, toujours sur France Info, disait peut-être que le gouvernement a distribué 17 milliards, mais on est toujours dans le rouge le 10 du mois. Mais pourtant, c'est pas rien.
C'est terrible pour le politique parce qu'il y a eu des choses. Alors, peut-être que le regard que les gens ont sur le politique est tellement abîmé que, quelles que soient les choses qu'on fait, on ne le voit pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses. Il y a eu les 17 milliards, on a supprimé la taxe carbone. Encore cette semaine, il y a eu un service public du versement des pensions alimentaires. On sent que le gouvernement a essayé de faire des choses, mais ça ne se perçoit pas. Emmanuel Macron en est conscient. Hein. Il a dit cette semaine devant des proches, les causes profondes du mécontentement sont toujours là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça rend extrêmement difficile la suite du quinquennat, parce que là-dessus, sur ce sentiment de frustration, va venir se greffer la réforme des retraites, qui fera forcément des perdants et des gagnants, mais des perdants. Et puis l'augmentation du pétrole. Enfin, on sent bien que, voilà, on a un terreau d'insatisfaction où, en toute bonne foi, les gens ont le sentiment que rien n'a été fait pour eux. Et comment continuer à construire quelque chose dessus, c'est pas évident.
Oui, malgré tout, ce n'est pas 17 milliards pour rien, parce que quand vous suivez à travers les enquêtes l'opinion des Français, d'abord, je rappelle qu'Emmanuel Macron était à 20% de jugement favorable en décembre dernier et qu'il est aujourd'hui à 36%, donc il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Et ensuite, sur la question du pouvoir d'achat, qui n'avait cessé d'augmenter justement durant ces mois-là comme préoccupation et de s'imposer au rang numéro 1, ça a quand même baissé.
Derrière l'environnement.
Alors, c'est toujours un niveau important, hein, il ne faut pas se leurrer, ouais. Les témoignages le confirment. Mais on ne peut pas dire que ça a été 17 milliards pour rien. Ouais. Individuellement, beaucoup de gilets jaunes disent, et ils ont raison, ou on peut les comprendre, ça n'a pas changé ma situation. Mais globalement quand même, les Français, heureusement, ont perçu
qu'il y avait quelques améliorations. Peut-être les Français qui vont bien. Et du coup, ça accroît une un partie, peu cette fracture partie, sociale compliquée.
Pas que quand même. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Combien y a-t-il de gilets jaunes aujourd'hui? Est-ce leur chant du cygne? Est-ce que vous avez l'impression d'assister au 45e acte et peut-être le dernier,
Emmanuel? En tout cas, sous une certaine forme, aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'ils en attendaient beaucoup et beaucoup disaient si aujourd'hui on ne réussit pas à être visible, on ne réussit pas à reprendre ces Champs-Élysées de manière symbolique, je n'y retourne pas. J'ai beaucoup entendu. Après, est-ce
prendre les Champs-Élysées, hein, c'est
dans
votre expression,
y a cette, oui,
comme la prise de la Bastille.
Occupé comme ils ont occupé le 16 mars. Enfin, voilà. Ceci dit, être visible, en fait, de nouveau visible. Ceci dit, le chant du cygne sur le fond, tout ce qu'on vient de dire montre qu'il y a une souffrance qui reste là. Ils parlent beaucoup, par exemple, des retraités de aujourd'hui qui souffrent, qui étaient beaucoup sur les ronds-points, qui sont moins présents aujourd'hui, mais qui continuent d'être gilets jaunes dans le cœur. Voilà, donc cette forme de revendication de souffrance, il va falloir qu'elle s'exprime sans doute autrement.
Que réclament les gilets jaunes aujourd'hui? Ont-ils toujours les mêmes revendications, Brice Teinturier?
Mais il y a toujours une difficulté à identifier les revendications des Gilets jaunes, puisque le mouvement lui-même s'oppose à avoir des délégués...
Protéiformes.
Oui, qui canaliseraient ces revendications. Malgré tout, on les connaît. Le mouvement, il est né d'un sentiment d'injustice extrêmement profond. Et l'allumette qui a enflammé ça, ça a été, vous l'avez rappelé d'ailleurs, la taxation verte sur l'essence. Donc ce qu'ils voulaient, c'était de la reconnaissance, plus d'égalité, plus de pouvoir d'achat et puis des perspectives. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est que les perspectives, ils ont l'impression qu'elles ne sont toujours pas là. L'idée du progrès social, de la possibilité de monter dans la société est une idée qui reste aujourd'hui laminée, faible.
Pourquoi ne mettons pas le paquet pour arrêter les Black Blocs dont le seul objectif est de détruire l'économie de notre pays, Nicolas Chapuis?
Alors,
on ne peut pas les arrêter, ces Black Blocs.
Je peux rassurer les spectateurs, les forces de l'ordre mettent le paquet, on l'a vu encore aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre, on l'a déjà expliqué dans cette émission, mais le Black Bloc, ça ne veut rien dire en soi. Le Black Bloc, c'est une technique de manifestation qu'utilisent un certain nombre de personnes en s'habillant en noir, en usant du grand nombre. Il faut une manifestation avec beaucoup de gens pour pouvoir se fondre à l'intérieur et pouvoir retirer ses habits pour pouvoir se disperser. Le Black Bloc est une technique utilisée par l'ultra-gauche principalement,
et
à l'origine.
Prendre, qu'est-ce qui leur arrive,
et qui, aujourd'hui, est utilisée par ce qu'on appelle les ultra-jaunes. Ceux qui se font prendre prennent cher.
Comparution immédiate.
Et ils ont un traitement judiciaire qui est très sévère. Mais les membres de l'ultra-gauche qui viennent dans ces manifestations-là se font très peu prendre. Ceux qui se sont fait prendre, c'est beaucoup plus les gilets jaunes. Parce qu'ils sont beaucoup moins aguerris. Ils ne savent pas comment s'échapper. Et surtout, l'ultra-gauche souvent annonce qu'elle va être là et puis ne l'est pas. Ils n'ont pas le même enjeu de présence que les gilets jaunes qui, eux, veulent être là tous les samedis, sont présents. L'ultra-gauche, s'ils considèrent qu'il n'y a pas le nombre ou que la situation n'est pas propice à une action, ils ne vont pas venir ou ils vont annuler même en cours de route. Et donc, ils sont très, très durs à appréhender pour les forces de l'ordre. Ceci dit, les forces de l'ordre et les services de renseignement de ce pays travaillent sur les groupes radicaux et donc les connaissent, les surveillent, essayent de prévoir leurs actions.
Beaucoup,
et
on a vu qu'ils sont capables.
Certains sont étrangers. Certains sont étrangers, viennent d'Allemagne, mais il y a un gros groupe qui est français et on a vu qu'ils sont capables de les mettre en échec à grand renfort de moyens. Mais on l'a vu pour le G7, ils n'ont pas été capables de déployer, des modes d'action tels qu'ils auraient voulu le faire parce qu'il y a eu un dispositif policier qui était hors norme. Mais ensuite, ouais. Ça pose la question, faut-il à chaque événement du coup sortir toute l'artillerie lourde et mobiliser l'ensemble de nos forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui on était sur un niveau de mobilisation. On ne peut pas aller franchement au-delà. Derrière, il n'y a plus de troupes disponibles de CRS, de gendarmes mobiles.
Bah, 7 500 policiers pour 15 000 manifestants. Hein, donc
ça... Voilà, mais 7 500 policiers, ça veut à la fois tout et rien dire, parce que 7 500 sur le terrain, ça veut dire beaucoup mobilisés autour dans les commissariats pour le traitement, etc. Et puis ça veut dire que ceux qui étaient censés être en repos, ils ne pourront pas l'être la semaine suivante. Donc il n'y a pas vraiment de troupes de réserve pour aller beaucoup plus loin.
Les marches, les défilés, les pétitions n'ont aucun effet sur les politiques menées. Que faut-il faire, Cécile Cornudet ?
C'est la grande difficulté, parce qu'à chaque fois que l'exécutif essaye d'apporter une solution, on voit qu'il est dépassé par la radicalité ambiante. L'exemple, c'est sur ces bandes, vous savez, de protection entre les champs où on utilise des pesticides et les habitations dans les campagnes. Le gouvernement était très content de pouvoir dire on va faire une bande de 5 à 10 mètres. Et donc, il avait l'impression de faire une énorme avancée, sauf que le climat politique a imposé la norme de 150 mètres parce que des maires ont pris des arrêtés pour ces anti-épandages sur ces normes-là. Et donc, du coup, ça apparaît ridicule, alors que, voilà, donc à chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose... Alors, sur ce mouvement citoyen, on sent qu'il essaye de se dire on va essayer de retourner, comme une prise de judo, ces grandes manifestations pour que les Français eux-mêmes se saisissent, l'empowerment écologique citoyen, se saisissent de ces questions et eux-mêmes avancent. Et on va favoriser partout dans les écoles, dans les villages, les initiatives vertes pour faire avancer. Mais en tout cas, de grands soirs écolos, il n'y en a pas dans les tiroirs.
Où allons-nous avec un juge qui encourage les révoltes en relaxant les décrocheurs ? Est-ce que ça n'a pas été pris comme un encouragement à la désobéissance civile, là, de ceux qui ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron?
Je pense qu'il y a les deux. Il y en a qui s'en réjouissent et qui disent « ça y est, notre combat est enfin reconnu et légitimé », et puis d'autres qui, tels téléspectateurs, considèrent que c'est absolument un encouragement à...
Notre société est-elle en train de se radicaliser de façon inquiétante ? Je ne sais pas qui veut répondre.
Oui, moi, les Gilets jaunes, ce sont des braves, des gens qui n'avaient plus rien à faire, mais qui sont descendus. Et on a des formes de radicalisation qui ne cessent de monter dans la société, d'insoumission, qui peuvent être encouragées. Et on en voit des traductions de plus en plus claires, de plus en plus violentes.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, d'y avoir assisté. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Demain, C'est politique. Karim Rissouli recevra l'économiste Thomas Piketty et son œuvre Capital et idéologie. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo. Merci beaucoup.